Le monde d'Ulysse avec Kevin Gilbert sur Radio Grand Ciel. Bonjour à tous et bienvenue dans Le monde d'Ulysse, l'émission consacrée à l'Antiquité grecque qui va vous être présentée par moi-même, Kevin Gilbert. Lorsqu'on évoque la Grèce antique, de quoi parle-t-on ? De quel cadre chronologique et surtout de quel cadre géographique ? Et aussi à quoi correspond cette société ? Avec cette émission, nous allons essayer de répondre à ces questions et plus encore, afin de découvrir ou de redécouvrir cette période passionnante et fascinante de l'histoire. Et très très vite, on va se rendre compte que l'Antiquité grecque, c'est pas seulement ce qu'on voit aujourd'hui lorsqu'on va visiter la Grèce et ses monuments, et ça ne se limite pas uniquement à cette petite péninsule située dans l'Orient méditerranéen, mais que ça va toucher un monde et un espace encore plus vaste. Pour bien comprendre ce que c'est que l'histoire grecque, l'histoire de l'Antiquité grecque, il faut comprendre que ça remonte bien avant l'hégémonie athénienne, c'est-à-dire avant le 5e siècle, mais quand on parle d'histoire grecque, on démarre avec le 8e siècle. 8e siècle, début d'une époque qu'on appelle archaïque. En effet, l'époque archaïque se situe entre le 8e siècle avant Jésus-Christ et l'année 480 avant Jésus-Christ. C'est la période où l'Iliade et l'Odyssée d'Homère vont être fixées, bien que ces deux textes datent des milieux 9e, voire milieu 8e. Et c'est aussi l'époque où Hésiode va rédiger et nous transmettre sa théogonie, c'est-à-dire sa généalogie des dieux. Et plus important encore, l'époque archaïque correspond à l'émergence de la cité, ce qu'on appelle la polis. P-O-L-I-S, et non pas C-E, comme la police à laquelle on peut effectivement se raccrocher. La polis, c'est pas seulement la ville, c'est un ensemble de choses qu'on appelle l'astou et l'agora, c'est-à-dire la cité urbaine auquel on ajoute sa campagne. Toutes ces villes, toutes ces cités sont indépendantes les unes des autres. La Grèce ne connaît pas de véritable unité pendant la période qui va nous intéresser. Cette période archaïque, c'est aussi une période de bouleversement, de changement religieux. En effet, les cultes vont avoir un grand rôle car ils vont être le ciment de la communauté, puisque cette époque correspond, je vous l'ai dit, au début de fondation de la cité, mais aussi de la communauté grecque, le sentiment d'appartenance à une seule et même communauté. Et pour renforcer cette appartenance, les Grecs vont ajouter le culte rendu aux héros. Souvent, ce sont des personnages mythiques, fondateurs, ce sont les pères des cités. Si on prend l'exemple de Thèbes, on va mettre en avant un héros, Cadmos, qui viendrait, d'après Hérodote, d'une région orientale, d'une région syrienne actuelle. C'est donc un personnage, d'un point de vue ethnique, sémitique, qui va rechercher sa sœur, Europe, enlevée par Zeus, et lors de ses pérégrinations, il va, via l'oracle de Delphes, fonder une cité qui sera celle de Thèbes. Bien évidemment, qui dit héros mythique dit acte de bravoure. Lui, dans son cas, ça va être de tuer un enfant d'Arès, qui ne sera rien d'autre qu'un dragon ou qu'un serpent géant. Cette période aussi va être bouleversée dans le domaine militaire. En effet, si on se réfère à l'Iliade et à l'Odyssée, la manière de combattre, ce sont des duels entre aristocrates, des aristocrates qui vont descendre de leur char pour se livrer à un duel afin de régler leur conflit. Là, désormais, le combattant, c'est un citoyen, et même un ensemble de citoyens qui vont ensemble former ce qu'on va appeler la phalange et la phalange hoplitique. L'époque archaïque, c'est donc le début de cette infanterie lourde qu'on appelle les hoplites, qui sont représentés pour la première fois en 640 avant Jésus-Christ, sur un vase célèbre qu'on va appeler l'Olpe Shiji. Alors l'Olpe, qu'est-ce que c'est ? C'est une sorte donc de nokoé, donc un petit vase qui devait contenir vin et onguents. Le monde grec, donc, dès cette époque, bien ancienne, est un monde en plein développement, mais aussi en pleine expansion. Dans un premier temps, on parlait de colonisation grecque. En effet, les Grecs vont fonder des cités sur le pourtour de la Méditerranée, mais aussi en mer Noire. On parle désormais maintenant d'essaimage, voire de diaspora grecque dans ces régions méditerranéennes et celles de mer Noire. Et ces premières fondations remontent dès l'année 770 avant Jésus-Christ, donc très très tôt dans l'histoire grecque, avec la fondation de Pithecus, donc en Grande-Grèce, donc Italie et Sicile actuelles. C'est aussi la période, cette période archaïque, dont je vous rappelle, hein, 8e siècle avant Jésus-Christ, 480 avant. C'est donc une période aussi où les bouleversements vont être politiques, puisque ça va être le temps des législateurs. Si on prend les plus célèbres, Dracon et surtout Solon l'Athénien, qui vont réformer la manière de gouverner, la manière de faire de la politique, et mettre en avant les jalons donc de la démocratie. Mais c'est aussi le temps des tyrans. Alors attention, là, quand on parle de tyrannie dans la Grèce antique, on ne parle pas de tyran au sens moderne et contemporain du terme, puisqu'un tyran, certes, il va s'accaparer le pouvoir de manière illégale, anticonstitutionnelle, mais son socle, ça va être le peuple. C'est un personnage anticonstitutionnel, qui prend le pouvoir de manière forte, souvent violente, mais qui jouit d'une grande popularité, et qui surtout s'appuie sur le peuple. Si on prend l'exemple du tyran le plus célèbre de l'Antiquité, très certainement c'est l'Athénien Pisistrate, qui va gouverner, régner sur Athènes entre 561 avant et 527 avant Jésus-Christ, avec des périodes de coupure. Donc cette période archaïque, on en a fait un tour assez rapide, un balayage assez rapide, pour comprendre le cadre chronologique, donc la Méditerranée, la mer Noire, et donc pour qu'on se rende compte que ça va dépasser donc le cadre juste géographique de la Grèce continentale, de la Grèce actuelle et des îles de la mer Égée. Cette période, en fait, elle va se terminer avec un événement qu'on appelle les guerres médiques. Alors dans le découpage, hein, je vous le dis tout de suite, le découpage chronologique actuel qu'ont fait les historiens, c'est pas très clair, c'est un découpage artificiel, les Grecs n'ont pas conscience qu'ils vont changer d'époque. C'est un découpage qu'on a fait après, ce ne sont pas des césures, des cassures nettes. Mais nous, après analyse, on va pouvoir faire ce découpage pour mieux, entre guillemets, ranger les événements. L'époque classique, elle donc va commencer à la fin du... Enfin, début du 5e siècle, plutôt, avant Jésus-Christ, toujours, avec ce qu'on appelle les guerres médiques. Alors les guerres médiques, qu'est-ce que c'est? Qui sont ces Mèdes? Les Mèdes, en fait, ce sont le nom que vont donner les Grecs aux Perses. Donc l'Empire Perse, le voisin des Grecs, donc un empire qui va régner donc, de l'Asie mineure jusqu'au contrefort de l'Inde, donc un très vaste territoire, très riche, très puissant, et qui a déjà soumis une partie donc, de ce qu'on appelle l'Asie mineure, ce qui correspond aujourd'hui au littoral turc en Méditerranée. Et ce littoral turc, donc cette Asie mineure, est composé essentiellement de cités grecques, donc de cités qui ont été fondées par des Grecs. Et une de ces cités, Milet, va se rebeller contre le pouvoir perse et va être soutenue par Athènes. Donc, c'est donc une ville qu'on appelle Milet, qui est située dans la région de Ionie, la région ionienne, et Athènes est une cité également ionienne, donc qui partage une culture commune, et les Athéniens vont répondre à l'appel des cités ioniennes dans cette révolte. La révolte va être écrasée de manière violente, et les Perses vont avoir en mémoire qu'une cité a aidé les révoltés, les insurgés, ça va être Athènes. Et donc le regard du roi Darius va se projeter sur l'autre rive de la Méditerranée et va se lancer donc dans une expédition, donc dans l'année 490 avant Jésus-Christ, sur les côtes grecques. Et donc dans un premier temps, il va être victorieux, mais il va être stoppé donc sur la fameuse plage de Marathon par le stratège athénien Miltiade, qui va remporter une victoire décisive en empêchant les troupes de débarquer. Et justement, grâce à la puissance de la charge de l'infanterie lourde des hoplites, va mettre fin et va balayer les troupes désorganisées des Perses. Donc ça, c'est pour la première guerre médique, en 490 avant Jésus-Christ. Mais le fils de Darius, Xerxès, va vouloir se venger. En effet, en 480, il va vouloir relancer l'offensive sur les côtes grecques. Et c'est durant cette guerre qu'a eu lieu le fameux épisode des Thermopyles, où les Spartiates ont résisté vaillamment, donc 300 Spartiates ont résisté vaillamment aux troupes perses. Mais la victoire finale n'aura pas lieu cette fois-ci sur terre, mais sur mer, puisque donc c'est Thémistocle, lors de la bataille navale de Salamine, va mettre en déroute la flotte perse. En effet, Thémistocle avait pressenti depuis un certain temps que les Perses allaient vouloir revenir à la charge, et avait, via une habile politique, notamment en cédant des mines d'argent du Lorient, il va extraire cet argent pour financer la construction d'une flotte de guerre conséquente qui va pouvoir mettre en déroute les Perses. Et donc à partir de là, on entre dans l'âge classique. l'âge classique, c'est donc l'âge de Périclès, l'âge de l'hégémonie athénienne qui, en 478, va fonder la Ligue de Délos. Cette Ligue de Délos, c'est quasiment une sorte de petit empire égéen où Athènes va être à la tête d'une multitude de cités qui vont se rassembler donc autour du commandement du gouvernement d'Athènes pour tout ce qui est coordination militaire dans un premier temps. Mais finalement, cette ligue va vraiment propulser Athènes au rang de puissance hégémonique égéenne et même sur une immense partie de la Grèce, puisque c'est à cette époque que Périclès va faire construire le fameux Parthénon qu'on voit aujourd'hui. Alors le Parthénon, pour le coup, c'est pas le temple principal de l'Acropole, hein, c'est le temple principal historique de l'Acropole, c'est le petit temple qui est juste à côté, c'est ce qu'on appelle l'Érechtheion, où on peut voir les fameuses Caryatides, pour ceux qui ont eu la chance de se rendre sur l'Acropole d'Athènes. Mais le rôle important que va jouer le Parthénon, c'est bien évidemment, c'est quand même un temple, donc il y aura une fonction cultuelle, notamment envers la divinité Polyade, donc la divinité protectrice d'Athènes, Athéna. Mais il va permettre aussi de stocker, de conserver le trésor de la Ligue de Délos, puisque les cités vont devoir payer un tribut. Mais l'hégémonie athénienne ne va pas durer, puisque entre 431 et 404 avant Jésus-Christ, va avoir lieu une guerre importante, une guerre les plus virulentes que va connaître la Grèce, ça va être la guerre du Péloponnèse, qui va opposer Athènes à Sparte, sa puissante rivale. Sparte va sortir vainqueur du conflit, et donc on va passer d'une hégémonie athénienne à une hégémonie spartiate. Donc, histoire de vous dire que l'époque classique, ça va être aussi le temps des hégémonies. On aura dans un premier temps Athènes, puis Sparte, et enfin Thèbes. Mais les cités vont connaître un déclin au niveau politique, mais aucune ne va pouvoir désormais prétendre à une hégémonie. Et un nouvel acteur va entrer, donc en cette fin de l'âge classique, va entrer dans le jeu. Il s'agit du royaume de Macédoine, avec à sa tête Philippe II, qui va régner donc en 358 jusqu'en 336 avant Jésus-Christ, date à laquelle il va être assassiné. Il s'agit du père d'Alexandre le Grand, Alexandre III de Macédoine. En effet, Philippe, en 338, en août 338, il va être le vainqueur d'une grande bataille, la bataille de Chéronée. Et ainsi, la Grèce continentale, la Grèce des cités indépendantes, va connaître une sorte de fin, puisque c'est le royaume de Macédoine. Maintenant, la puissance grecque, bien qu'à la base, la Macédoine était un royaume périphérique du monde grec, là, il va entrer de plein pied dans le monde grec, en soumettant ses cités, après Chéronée en 338. Et il va fonder l'année d'après, en 337, la Ligue de Corinthe. Cette Ligue de Corinthe, qu'est-ce qu'elle lui permet de faire ? Déjà, elle lui permet de mettre fin aux guerres entre les cités, puisque Philippe va dire que désormais, la Macédoine vous domine, je vous dicte ma loi, et maintenant, il est interdit de faire des guerres entre vous. En effet, il a une idée derrière la tête, c'est d'aller envahir le puissant empire perse, donc l'ennemi héréditaire qui, je vous le rappelle, hein, au cours des guerres médiques, 490-480, avait tenté de conquérir la Grèce et ses cités. Et Philippe va jouer sur cette crainte encore du royaume perse, puissant voisin, et va aussi mettre en avant quelque chose qui est très célèbre et qui est très populaire dans l'époque classique, et qu'on va même retrouver dans l'art, c'est cette opposition entre le monde de la civilisation, le monde des cités, le monde des hommes, et celui du monde barbare. Et Philippe va donc se présenter comme un champion du monde grec, en voulant unir ses cités et en allant envahir l'Empire perse. Sauf qu'il va être assassiné en 336, il ne pourra pas mettre à bien son projet, et son successeur, Alexandre III, donc dit le Grand, qui va régner donc de 336 à 323, date de sa mort à Babylone, va prendre le relais de cette expédition. Donc lui, Alexandre, va très rapidement étendre un empire qui va démarrer donc de la Grèce continentale, de la Macédoine, jusqu'au contrefort de l'Himalaya et l'Afghanistan actuel, donc les royaumes qu'on appelle à l'époque Sogdiane et Bactriane, pour vous montrer que le monde grec, donc, qui va s'étendre dans un premier temps, je vous le rappelle à l'époque archaïque, dans tout le pourtour méditerranéen, dans la mer Noire, là désormais, il va s'étendre jusqu'en Afghanistan actuel, jusqu'au contrefort de l'Inde. Donc Alexandre, après deux grandes batailles décisives, celle d'Issos en novembre 333, et Gaugamel en octobre 331, donc deux batailles qui vont se dérouler en Turquie actuelle, il va mettre fin à l'Empire perse et s'en emparer. Donc il va faire une série donc d'expéditions, je vous l'ai dit, jusqu'au fleuve Indus, donc dans le nord de l'Inde. Ensuite, donc il va être battu et il va rentrer à Babylone, où il va mourir en 323, à l'âge de 32 ans. Donc le 11 juin 323 précisément, à l'âge de 32 ans. À la mort d'Alexandre, on entre dans une autre période, la période dite hellénistique. Donc c'est totalement différent au niveau politique, hein, souvenez-vous. On était passé avec les périodes archaïques aux périodes classiques à un monde grec où les cités étaient indépendantes. Et là, fin de l'époque classique, début de l'époque hellénistique, le régime politique dominant, c'est donc la monarchie. Et donc avec la mort d'Alexandre le Grand, on assiste à un partage, le partage de son territoire avec les accords de Babylone. Donc ce partage se fait entre les lieutenants, les généraux d'Alexandre, qu'on appelle les diadoques. Donc les diadoques, ça nous vient du grec, ce qui signifie les successeurs. Donc on a notamment des diadoques, notamment Ptolémée, qui lors de ce partage va hériter de l'Égypte. Mais aussi Séleucos, qui va lui hériter de la Syrie. Et ce partage, en fait, il s'est pas fait sans heurts. C'était pas une simple discussion, puisque Alexandre avait des successeurs légitimes. Il avait un frère. Donc il souffrait de quelques troubles psychologiques, apparemment. Philippe III, qui était resté en Macédoine, donc, et aussi d'un fils. Sauf qu'à la mort d'Alexandre, sa femme, Roxane, est encore enceinte. Donc dans un premier temps, les généraux vont assurer une sorte de régence, tout en promettant que le petit successeur à naître, donc qui, coup de chance, ce sera un garçon, futur Alexandre IV, succédera à son père. Sauf que, ben patatras, hein, rien va se passer comme ça. Alexandre IV va être assassiné. Philippe III en Macédoine, donc le frère d'Alexandre le Grand, va être assassiné aussi. Et donc les diadoques, les généraux d'Alexandre, vont vraiment devenir des rois, indépendants les uns des autres, et se partager cet empire. Mais entre eux, ils vont pas très bien s'entendre, hein, si on pouvait s'y attendre. Et jusqu'au milieu du IIIe siècle, on va avoir donc ce qu'on appelle les guerres des diadoques. Donc entre 321 à peu près, milieu du IIIe siècle, c'est donc les guerres des diadoques. Qui vont aboutir vraiment à un affaiblissement de ces royaumes, mais aussi ça va être aussi un temps où on va développer une nouvelle façon de combattre. Ça va être notamment l'art du siège, donc la poliorcétique qui va se développer avec des forteresses et des enceintes de plus en plus élaborées, hein, notamment en Asie et en Syrie. Donc ces royaumes hellénistiques qui vont s'affaiblir, je vous l'ai dit, ils vont être confrontés assez rapidement à un nouvel acteur, Rome. Donc Rome est en pleine expansion, hein, depuis qu'elle a pris conscience de sa puissance au cours des guerres puniques face à son ennemi, Carthage. Donc elle va commencer à s'étendre dans un premier temps dans l'Occident méditerranéen, mais très très vite, elle va être confrontée dans l'Orient méditerranéen au royaume hellénistique, la Macédoine en premier. Et petit à petit, les différents royaumes vont tomber les uns après les autres. Et ce monde hellénistique, il va lentement donc décliner, disparaître au profit de Rome. Ben, après la défaite donc, de Cléopâtre, la célèbre reine d'Égypte, Cléopâtre VII, qui en fait, ça on le dit très très peu, la dernière souveraine Lagide. Donc les Lagides, qui sont ces personnages? Les Lagides, en fait, c'est les membres de la famille, donc de la dynastie de Ptolémée. Ptolémée qui était un des premiers généraux d'Alexandre qui a hérité de l'Égypte. Donc entre 321 jusqu'en 30 avant Jésus-Christ, donc pendant quasiment 3 siècles, c'est la même dynastie qui va gouverner l'Égypte, c'est une dynastie en fait grecque. Cléopâtre s'était alliée avec Marc-Antoine, donc elle a fait le mauvais choix. Marc-Antoine, qui était son allié politique et militaire, mais aussi son amant, puisqu'elle a eu deux enfants avec lui. Et ces deux alliés vont perdre face à Octave, donc le futur empereur Auguste. Et donc en 30, les troupes Octave vont entrer dans Alexandrie et Cléopâtre va se suicider. Donc le suicide de Cléopâtre, 30 avant Jésus-Christ, ça marque la fin du monde hellénistique, le monde de l'indépendance de la Grèce, puisque déjà depuis un certain temps, les différents territoires grecs étaient soumis à Rome, notamment la Grèce, hein, depuis 146 avant Jésus-Christ, avait perdu son indépendance. Donc entre le 8e et le 1er siècle avant Jésus-Christ, si on fait un point, la Grèce, c'est plutôt le monde grec, ont connu donc une histoire passionnante qui est marquée par des innovations, qu'elles soient politiques, religieuses, militaires. Ce monde grec, il s'est étendu petit à petit, donc dans tout le bassin méditerranéen dans un premier temps, dans la mer Noire, et il a même atteint donc les royaumes de la Bactriane, de la Sogdiane. Donc c'est un monde qui s'étend donc, pour reprendre le vocabulaire des géographes de l'époque, des colonnes d'Hercule jusqu'au contrefort de l'Himalaya, donc du détroit de Gibraltar jusqu'à l'Afghanistan et à l'Inde actuelle, on est dans le monde grec. Donc, bien que politiquement vaincue, cette culture, elle va perdurer. La culture grecque, elle est encore autour de nous aujourd'hui. Si on marche dans la rue, on voit toujours cette influence architecturale, que ce soit par les colonnes doriques, ioniques ou corinthiennes. Donc, même si politiquement la Grèce va, comment dire, connaître une fin, on estime autour de 30 avant Jésus-Christ, cette culture, elle va perdurer. Donc c'est ce que je vais essayer de vous faire découvrir au fil de ces émissions, donc autour de ces émissions du monde d'Ulysse, où on essaiera de faire tomber tous ces clichés sur le monde grec et aussi de comprendre, entre guillemets, d'où nous venons. Donc j'étais ravi de faire cette première émission avec vous. N'hésitez pas à poser vos questions sur le site internet de Radio Grand Ciel, donc rgc@radiograndciel.fr. Merci à vous, au revoir.
Στος ανάπνευσας δε χωμούς. un bel ébreuil cigare.
Ora tergazeto, odesahil,
leos pais.
Zeus hone po be se sam ze oi.
Radio Grand Ciel.